Ça fait plaisir.
Un plaisir de boucler tout ça avec vous parce que ça a été une très belle année, il faut le dire, pour le Parti québécois. Pour vous et pour le Parti, une année surprise ou ça fait partie du plan?
Parce que, en politique, il faut accepter qu'il y a plusieurs variables qu'on ne contrôle pas. On s'était fixé l'objectif de maintenir la cadence, la qualité dans un contexte où on est seulement 4 députés. On a maintenu le niveau, avec comme conséquence qu'on a maintenu les appuis, même augmenté les appuis dans la population. Et donc, ça, c'est une fierté parce qu'on joue contre 89 députés de la CAQ, puis on n'est que 4. Donc, 2025, même plan de match, il n'y a rien qui change, c'est-à-dire donner l'heure juste, des fois, même s'il y a un peu de vent dans face, comme on dit, être pertinent, bien travailler, bien se préparer. Et observer aussi, parce que la dernière session, si on fait le bilan de cette session-ci, force est de constater qu'une grosse partie de l'actualité est occupée par la CAQ elle-même et le fait que ces gestes du passé étaient mal ficelés, mal préparés. Ça a des conséquences aujourd'hui. Donc, on voit un gouvernement qui est dépassé dans la plupart de ses dossiers. Notre travail à ce moment-là, c'est de ramener à des solutions, à une approche différente de ce que la CAQ nous a habitués.
Est-ce que ça vous arrive parfois à huis clos de vous dire les quatre, hey, imaginez, on a fait ça à quatre, si on était plus, on pourrait viser encore plus haut. Ça doit arriver souvent, ça?
Attendez. C'est parce que là, il y a une partielle dans Terrebonne. Vous imaginez l'impact de Pascal Paradis en passant. Le fait qu'à Québec, on est passé de 3 à 4 députés, c'est une augmentation de régime de 33 %. C'est comme au hockey, jouer à 5 contre 3 ou jouer à 5 contre 4. Le quatrième joueur fait une grosse différence. Il est excellent dans son rôle de député, mais pour les équipiers, ça sera le même impact si on tombe à 5. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit en fin de session, on n'a pas encore atteint notre plein potentiel, notre plein niveau, parce qu'à 4, il y a plusieurs rencontres, intervenants, sujets qu'on n'a pas le temps. Moi, j'ai 3 enfants à bas âge aussi. Le Québec, c'est un gros territoire, donc des fois, il faut essayer de se rendre. On a fait une tournée en santé notamment. Mais tu ne peux pas être partout en même temps. Normalement, pour faire un travail correct d'opposition, tu as besoin d'une quinzaine de députés. Juste d'augmenter à 5, on se le souhaite énormément pour 2025. Il y aura une partielle à Terrebonne, il y aura peut-être d'autres partielles. Ça, c'est à surveiller pour la prochaine année.
Ouais, on pense entre autres à Arthabasca, là, dans le coin de Victoriaville. Je veux parler de laïcité avec vous. Puis avant d'en parler dans les écoles, il y a un débat qui est lancé sur la prière dans les lieux publics. Vous êtes pour ou contre au PQ?
On est contre l'envahissement des espaces publics à des fins religieuses. Maintenant, ça, c'est pas la même chose que de dire « on va interdire les prières partout ».
C'est quoi la différence?
Bien, la différence, c'est qu'il y a plusieurs religions qui ont un certain nombre de traditions qui ont lieu en public. Mm-hmm. Donc, avant de dire ça, il faut que tu fasses tes devoirs. Il y a des questions juridiques qui se posent. Donc, nous, notre engagement, ça a été de dire « on vous revient avec un plan de renforcement de la laïcité ». Souvenez-vous que tout ça a commencé à Bedford, une école où il y avait de l'entrisme religieux et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, voit tout le monde en parle en disant « c'est pas vraiment une question religieuse, faites attention aux amalgames ». Le lendemain, moi, je suis sorti en disant « non, c'est un problème d'entrisme religieux, d'entrisme islamique et il va falloir nommer le problème si on veut se donner des solutions ». Il n'y a pas que de l'entrisme islamique, il y a des cas dans les autres religions également, mais en principe, tu as un ministère de l'Éducation, tu as un programme, tu es supposé suivre ton programme. C'était pas le cas à Bedford.
Notamment pour l'éducation sexuelle.
La CAQ a complètement changé son approche après en nommant la situation. Mais quand, en fin de parcours, tu arrives au bilan, la journée du bilan de la CAQ, et que la CAQ dit « on va interdire les prières », qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est un gouvernement qui n'a pas fait ses devoirs, mais qui lance le sujet. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter une discussion sur Northvolt, ils veulent éviter une discussion sur le pire déficit de l'histoire du Québec. Ils veulent éviter la discussion sur les coupures en francisation, sur les coupures en santé, sur le fait qu'on recule au niveau des listes d'attente. Bref, ils ont lancé un ballon d'essai. Le sujet vaut la peine parce qu'on n'a pas à accepter ni l'entrisme religieux, ni l'entrisme idéologique. Donc, il y a vraiment une réflexion à faire. Nous, on va arriver avec quelque chose de fouillé. Mais ce que la CAQ a fait en fin de session, c'est un ballon d'essai de manière à ne pas parler de son bilan parce que c'est une autre session difficile pour ce gouvernement-là.
Vous parlez de ne pas parler de bilan, d'esquiver des trucs. Est-ce qu'il y a des choses que le Parti québécois aurait peut-être dû esquiver dans la dernière session, dans les dernières semaines? Je peux penser à toute l'histoire des du wokisme, des woke. Est-ce qu'on regrette d'avoir fait cette sortie-là?
Ça venait du fond du cœur.
Fait qu'on le regrette pas, même si on voit qu'on
persiste.
Ça venait de mon fond. En fait, il faut revoir ce point de presse-là. Moi, quand je commence mon point de presse, je parle de santé mentale des jeunes et de surprescription en disant on bourre nos enfants et nos ados de pilules, puis c'est pas un plan de match parce que la santé mentale se détériore. Donc, on va frapper un mur.
Je suis entièrement d'accord
avec vous. C'était ça mon sujet. J'ai eu aucune question sur mon sujet. Puis il me pose la question, Arun Boisy, vous en pensez quoi? Et ce que je voulais replacer, c'est qu'on était rendu à traiter Arun Boisy comme un cas vraiment d'exception pour des propos maladroits. On était rendu là dans le débat. Puis j'ai dit non, un instant. C'est un modus operandi, une façon de procéder qui est constante dans la formation d'Arun Boisy. Et voici les trois comportements dont moi, je suis plus capable. Et tu sais, on le voit que c'était senti, là. Plus capable de la désinformation, de déformer les propos de l'autre pour le démoniser. Plus capable des mots en phobe, raciste, intolérant, alors que c'est des débats parfaitement normaux qu'on tient quand même à l'Assemblée nationale avec une volonté d'une certaine prudence. Puis de la victimisation. Quand le débat ne va pas comme tu veux, puis que tu te fais ramasser parce que ce que tu as dit n'a pas de bon sens.
Assume.
Assume. Ça fait partie de la job. C'est, donc, la victimisation, tu peux plaider que ça, quelque chose n'a pas de sens puis qu'on ne t'a pas traité équitablement, mais la victimisation, c'est plus que ça. C'est vraiment de dire, « Oh mon Dieu, c'est moi qui suis la victime dans cette affaire-là et je n'assume pas, je m'excuse pour rien. Je fais juste dire que je suis la victime. » Donc,
fait que ça, on le garde.
Moi je le pense parce que si on réussit ce virage-là, il y a un assainissement du débat sur tous les sujets. On va être capable d'en débattre, puis on va être capable d'être en désaccord, mais sans avoir passé par de la désinformation puis du pointage de doigts qui s'attaque à la réputation des gens. Puis évidemment, ça venait de moi parce que je suis le chef du PQ.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on était seul à dire « faut fermer Roxham, les seuils d'immigration sont trop élevés ». Puis je me suis fait traiter à répétition là, les extrêmes droites puis les intolérants et tout. Puis là, aujourd'hui, Québec solidaire, Justin Trudeau
le dit.
Prend le même discours que nous à 3 ans de décalage. Mais c'était normal aussi que ça vienne de moi parce que c'est un parti, le Parti québécois, qui historiquement, de la part de la gauche radicale, s'est fait beaucoup taxer de tous les noms. Ça fait partie de leur tactique. Puis moi, je la veux plus, cet environnement-là.
C'était pas une erreur, la foi de
Wokeism. C'était spontané, mais je le referais demain matin avec les mêmes mots.
Qu'est-ce qu'on ne referait pas à ce moment-là? Y a-t-il une affaire où le PQ a été parfait?
En fait, les gens ont ri de nous parce qu'ils nous ont posé la question.
Oui, dans le bilan de l'Assemblée.
Puis vraiment, on se regarde, tout le monde cherche parce que tu veux dire quelque chose. C'est vraiment comme en entrevue, quel est ton pire défaut? Puis là, tu cherches, puis tu finis par dire, je suis perfectionniste.
Oui, puis ça, moi, quand je pensais des entrevues, je trouve un autre, je l'aime pas.
Exactement. C'est une session qui est moins haute en couleur que celle, supposons, du serment au roi. Mais c'est une session où on a été efficace puis il n'y a pas de grosse erreur de notre côté. Une dynamique, comme je vous disais, que j'aimerais qu'il change pour 2025, c'est qu'on en couvre plus. Et pour en couvrir plus, il va falloir gagner. Gagner des partiels. Il y en a une à Turban, peut-être d'autres. Il y a des limites à notre modèle en ce moment. Je trouve qu'avec ce qu'on a, on fait très bien. Donc, je ne m'inventerai pas des mauvais coups si j'en vois pas des gros, là. Mais c'est sûr que 2025, je nous souhaite de couvrir plus large.
Paul Saint-Pierre Plamondon, quel est votre pire défaut? Non, c'est pas vrai, on s'en va pas là. Prochaines élections provinciales, le PQ gagne. On fait quoi avec Santé Québec?
Ça, c'est une méchante bonne question. Premièrement, la raison d'être de Santé Québec n'a pas été beaucoup débattue. Devant un système de santé qui était censé, à coup de plans, de tableaux de bord, puis de comités d'urgence, puis d'équipes volantes, c'était supposé s'améliorer, ça ne s'améliore pas. Tout d'un coup, arrive Santé Québec comme la solution magique, puis le discours de Christian Dubé, ça devient, tant qu'il va falloir attendre que Santé Québec commence pour qu'il y ait des résultats. Mais là, quand on regarde attentivement, c'est quoi le mandat de Santé Québec? Santé Québec prend la commande politique du ministre et du premier ministre, coupe-moi 1,5 milliard. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement dépensier qui a transformé les surplus des libéraux, c'est à peu près 3 milliards, en le pire déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards, ce qui menace notre cote de crédit. Donc, ils ont renvoyé la commande à Santé Québec en disant, vous, vous allez couper 1,5 milliard.
Fait que Santé Québec, c'est le ministère?
Bien, c'est le ministère, mais sans la redevabilité puis sans l'obligation de répondre à mes questions.
C'est vrai.
Bon, mais ce matin, je suis sorti, je suis dans la presse pour dire, vous allez me détailler votre 1,5 milliard, puis vous allez nous expliquer pourquoi, ouais. Mais il y a quelqu'un qui va se porter garant de cette affaire-là. Donc, si Santé Québec sert à faire les tâches ingrates ou difficiles que les politiciens ne veulent pas faire eux-mêmes parce que ça nuit à leur image, puis si on se retrouve avec aucune transparence ni redevabilité, moi, je remets en question cette chose-là, parce que rappelez-vous que la taille de la fonction publique et de la bureaucratie sous la CAQ a nettement augmenté. Pourquoi? Parce qu'on rajoute des agences, on rajoute des contrôles, on rajoute des... Puis c'est pas de la faute des fonctionnaires, c'est vraiment une orientation politique de toujours rajouter. Puis quand tu parles aux travailleurs, tant en santé que dans le communautaire ou dans d'autres domaines, la paperasse, la proportion de temps à remplir des documents au lieu de faire ta job a vraiment augmenté. Donc... Moi, je ne peux pas rien garantir pour Santé Québec. Santé Québec est en examen. Puis, je pense qu'on a des bonnes questions à leur poser. Donc, s'ils se cachent, puis que tu vois le ministère et Santé Québec se renvoyer la balle pendant que personne répond à des questions fondamentales sur 1,5 milliard de coupures, dont des infirmières, dont du personnel de santé, ça va brasser plus tard, là, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, une démocratie.
Il ne passe pas une semaine, je dirais même, il ne passe pas deux, trois jours sans qu'on parle de façon négative du système de la santé. Vous êtes au pouvoir. Y a-tu une façon de revirer la machine? Y a-tu une façon de presque garantir qu'éventuellement, on va parler de façon positive de notre système de santé ici au Québec?
Bien, je ne serais pas en politique si je n'étais pas optimiste sur ces questions-là. Je suis pas fou allié, là. Je sais qu'il y a des gens intelligents qui ont passé au gouvernement avant nous et qui ont échoué à ça. Donc, moi, je pense que Guetta Barrette, Christian Dubé, c'est des personnes intelligentes. Premier constat, puis je le sais que les gens n'aiment pas voir cette réalité-là, mais premier constat, il y a énormément de gaspillage avec le gouvernement fédéral qui dédouble ce qu'on fait. Toutes les provinces, pas juste le gouvernement Legault, ont demandé au fédéral de renvoyer l'argent qui est envoyé à Ottawa sur une base historique des transferts en santé. La demande du Québec, qui était identique par personne aux autres provinces, c'était 6 milliards de transferts. On en a obtenu un seul. Vous vous souviendrez que François Legault avait dit que ce serait un de ses gros gains grâce à un mandat fort. On a obtenu 1 sur 6. 5 milliards dans le système par année, ça ne change pas le monde, sauf que, comme le disait la 649. Donc, ça, c'est un facteur majeur. Ensuite, il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas faites dans le système de santé qui valent la peine d'être essayées. Donc, on n'a pas changé le mode de rémunération des médecins comme c'était supposé. On insiste très peu sur la prévention. Donc, nous, on s'est penché sur comment on a moins de gens malades au Québec. Et non pas combien de traitements on fait puis combien de pilules on prescrit. Mais comment on ramène la santé? Parce que si vous regardez l'obésité puis la proportion de personnes avec des troubles de santé mentale, c'est en augmentation fulgurante. Évidemment que le système ne pourra pas absorber cette tendance-là avec le vieillissement de la population en plus. Donc, si on change puis on essaie de miser davantage sur la santé des gens, on est allé chercher des experts pour se préparer en ce sens-là, peut-être qu'on peut ramener le système à plus proche de l'équilibre. Si c'est mieux financé, même chose. Si les incitatifs des professionnels sont mieux alignés, mais ça veut dire des négociations difficiles avec les différents groupes de pression. Mais je vous dis ça pour vous dire que c'est pas comme s'il y a des choses... Il y a des leviers, il y a des variables sur lesquelles on peut avoir de l'influence. Puis moi, ça me fait dire qu'on peut renverser une tendance de détérioration des soins. Mais je pense pas que c'est en faisant des nouvelles structures puis en brassant des structures. C'est ce que les libéraux de Couillard ont fait. C'est ce que Christian Dubé fait présentement. Et je crains pour Christian Dubé qu'il va terminer avec une structure de plus, mais un bilan où les soins auront reculé. Et ça, ben, il ne semble pas être prêt à défendre ce bilan-là parce qu'il a dit à tout le monde en parle dimanche que ça ne tentait pas de se représenter. Donc, il va falloir le reprendre sous un autre angle. Puis, attendez-vous à un plan fouillé de plusieurs dizaines de pages de notre part sur c'est quoi notre plan de match. Ça laissera la chance à tous les professionnels puis aux gens de commenter s'il y a des imperfections.
Parfait. J'ai le goût de vous faire rire un peu. Parce que vous avez parlé de rapatriement de 5 milliards. Donc, on a parlé de souveraineté. Ouais. Vous arrivez au pouvoir, puis la souveraineté passe pas. On est-tu mieux dans le Canada ou le 51e État des États-Unis?
Ah!
Vous avez dit que c'est une bonne blague.
C'est une bonne blague, mais je trouve que Donald Trump revient trop souvent avec cette blague-là.
Oui,
ça a l'air intenté.
C'est une blague, c'est comme dans un party de Noël. C'est comme dans un party de Noël. Le mononcle te fait une blague une fois, tu es comme, mais quand c'est la cinquième fois que la blague revient, il y a un moment donné, tu le regardes et tu dis, OK, on a compris, là, mais c'est une blague. Par rapport aux États-Unis, moi, je prône la prudence dans le propos. J'aime pas voir François Legault ne pas reconnaître l'arrivée du nouveau président par un tweet comme il se doit. J'aime pas que François Legault dise « J'ai été pris avec la COVID, maintenant je suis pris avec Donald Trump ». Parce qu'on a devant nous une administration dont on ne sait très peu et qui peut être très imprévisible. Mm-hmm. Et notre mandat comme politicien, c'est l'intérêt du Québec. Puis l'intérêt du Québec, c'est de maintenir dans toutes circonstances les meilleures relations possibles avec notre partenaire principal puis avec la plus grosse puissance au monde sur le plan militaire. Puis moi, je prends ça très au sérieux. Donc, j'aurais bien des choses à dire sur cette affaire de 51e État, mais vous me permettrez d'être prudent puis de me concentrer d'abord sur le rôle que je suis peut-être appelé à jouer, c'est-à-dire bien représenter le Québec, pas faire de faux pas dans le cadre de cette relation-là.
Parlons-en de souveraineté, allons plus loin, parce qu'on sait qu'il y a bien du monde en ce moment qui s'en va pour voter pour le Parti québécois, puis qui est peut-être réticent parce qu'il dit « bon, je veux du changement, mais je suis pas souverainiste, puis j'en veux pas de pays, puis je trouve ça ridicule. Puis... » Mais le Parti québécois, puis moi, j'ai un respect pour ça, de dire « hey, nous autres, peu importe ce qui se passe, on avance, puis au pire, on perdra des votes, mais nous autres, on avance, puis on veut le faire, le pays. » Comme je dis, j'ai un respect pour ça. Mais est-ce que, mettons, je donne le choix à Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, est-ce qu'il devient premier ministre du Québec demain, mais c'est à condition qu'il n'ait pas le droit d'en faire de pays puis de référendum? Ou on dit, bon, ben moi, si j'ai pas le droit d'en faire de référendum, je préfère même pas être au pouvoir?
Ben moi, je vais dire ce que j'en pense, puis je vais donner leur juste sur ce que je pense sont les conséquences de chaque option là, pour le Québec. Puis c'est la décision des gens, c'est pas la mienne. Donc, j'accepte mon sort entièrement. C'est entre les mains de la population. Mais je le fais pas par intérêt politique, là, comme vous le dites. Si je faisais comme Philippe Couillard, puis je disais « on va s'occuper des vraies affaires », ou si je faisais comme François Legault, puis je dis « on tasse ces questions-là, puis il va y avoir du changement ».
Il y a eu les deux mains sur le volant aussi de Jean Charest.
Mais faites-vous-en pas, il n'y aura pas de changement. Je le sais qu'on pourrait faire ça, puis c'est comme dire aux gens « vous avez le beurre et l'argent du beurre, faites-vous-en pas ».
Vous ne ferez pas aucune chance.
Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Donc, Non, ça va être exactement ce que vous entendez, ce que vous voyez de notre part. Puis les gens devront se prononcer sur ce qu'on constate en ce moment, c'est-à-dire la non-viabilité financière et linguistique et culturelle et internationale d'un modèle dans le cadre duquel on a juste la moitié de nos impôts pour gérer à peu près tous les plus gros contrats. L'autre moitié s'en va en gaspillage à Ottawa. Moi, je suis sûr qu'on peut faire plus intelligent que ça avec les 82 milliards qu'on rapatrierait. Et c'est ça que je pense qu'on doit faire, parce que sinon, Philippe Pouillard et François Legault nous ont démontré qu'en fait, s'occuper des vraies affaires, ça marche pas, tu recules, parce que tu es en asphyxie fiscale, et donc tu n'as pas la marge de manœuvre, pendant qu'à Ottawa, c'est un, excuse de l'expression, là, c'est un free-for-all, c'est vraiment un bordel de gaspillage, de superposition, puis de dédoublement de ce qu'on fait déjà, des chicanes qui finissent plus, parce que Québec veut quelque chose, Ottawa veut plus, puis là, les villes là-dedans... Simplifier, puis ce qu'on peut économiser, réinvestir dans quelque chose de concret pour la population. Moi, c'est ça que je pense qu'il faut faire et ce sera ça que je proposerai.
Je vais vous inviter à prendre le casque d'écoute. Oui. J'ai rencontré hier Isabelle Tremblay, présidente de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Présentement, le gouvernement laisse planer le fait qu'il y aura des coupes dans des programmes d'aide aux personnes handicapées. Il y en a déjà dans tout ce qui est le mobilier pour les maisons. Alors, elle avait une petite intervention pour vous, puis j'aimerais que vous réagissiez par la suite.
Ben, disons que monsieur, on lui a écrit, on lui a envoyé notre communiqué et puis quelques articles qui ont paru cette semaine. Donc, ce qu'on demande aux médias, ce qu'on demande aux députés de tous les partis, c'est de nous aider à faire comprendre le bon sens là, au Québec actuellement, que c'est important de ne pas reculer là, face aux personnes handicapées et de ne pas remettre en question le principe de la compensation des limitations. Donc, M. Plamondon n'a pas eu encore sa réponse, mais vous pourrez faire le messager pour moi. Là. Je vais apprécier grandement.
On a fait le messager.
Avez-vous une réponse, Mme Tremblay?
On a déjà répondu. C'est Joël Arsenault qui s'en est occupé. Cool. Et on s'est positionné contre ces coupures-là. Mais évidemment, c'est parce que là, on a baissé les impôts, on a augmenté les dépenses. Pascal Bérubé a fait une liste qui appelle la Master CAC de dépenses absolument frivoles. Tout le monde connaît Nordvolt, là, mais il y en a plein d'autres, des entreprises, puis des projets de panier bleu, d'espace bleu, puis de bébelles d'études de troisième lien à coût de dizaines de millions. Même chose dans l'Est. On a fait la liste, on est arrivé à peu près à 5 milliards de gaspillage. Puis là, ce gouvernement dépensier, tout d'un coup, se réveille. Puis dit « Hey, on pourrait se faire décoter parce qu'on a un déficit vraiment disproportionné. » Qu'est-ce qu'on voit? On coupe auprès de gens qui ne sont vraiment pas les personnes qu'on devrait cibler dans ce genre de situation-là. Donc, on est déjà sorti, puis on va se porter à la défense de toute personne parce qu'évidemment, si une personne handicapée ne peut plus adapter son milieu de vie ou voit les ressources coupées là, pour fonctionner au quotidien, c'est une injustice assez flagrante et indéfendable. Surtout si on pense à comment on s'est rendu à 11 milliards de déficit. Donc oui, on est sorti et on va recommencer pour la suite.
Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai commencé la discussion en vous parlant de cette belle année-là de 2024 pour le PQ. En terminant, qu'est-ce que le PQ doit faire pour maintenir cet élan-là pour l'année 2025?
Ben, deux choses. Tout peut arriver en politique. Donc, on peut continuer à monter, puis on peut perdre des appuis, puis ensuite revenir. Donc, il ne faut pas regarder que les sondages. Il peut arriver toutes sortes de choses. On apprécie énormément le soutien, mais il ne faut pas non plus voir les choses trop à court terme. Sur le plan de notre manière de travailler, la clé pour nous, c'est la constance. Et si on passe à 5, ça va aider. On va pouvoir davantage se déployer, mais d'être constant, d'être solide dans tout ce qu'on fait et de bien travailler. Évidemment que 2025 aussi, c'est de préparer l'équipe de 2026. Parce que, essentiellement, ce que les gens vont vouloir voir de notre part, c'est « Parfait, vous êtes 4, on vous apprécie. Est-ce que vous pouvez nous trouver une dizaine de personnes comme vous qui travaillez bien puis qui nous changer de la manière de travailler de la CAQ, là, c'est-à-dire par sondage, sur le coin d'une table, dire une chose, faire l'inverse. Est-ce que vous êtes capable de monter cette équipe-là? » Donc, il y a une partie de 2025 qui va être consacrée à ça. Vous ne le verrez pas. Mais l'offre politique de 2026 devient très importante parce que c'est dans moins de 2 ans. L'été prochain, il va rester une année avant les élections. Mmh. Donc, ça va très vite. Donc, on se concentre sur être constant, puis la solidité de ce qu'on aura à offrir quand ça va compter.
Un immense merci d'être passé.
Ça m'a fait plaisir. On prend ça.
Ce matin, à Rage Against the Machine. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes en famille.
De même.
Merci.
Merci. Rage.